Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, on écoute le monde changer.
Europe 1, il est 8h.
Très bonne matinée à tous.
C'est toujours l'occasion de mettre les ministres sur le grill. Il n'y aura absolument aucun cadeau de fait dans l'hémicycle.
Les questions au gouvernement, baptême du feu pour certains, promenade de santé pour d'autres. La nouvelle équipe affronte les députés ce matin, les sénateurs cet après-midi. Jean Castex, invité surprise du Ségur de la Santé hier soir, le Premier ministre a annoncé une rallonge de plus d'1 milliard d'euros pour les salaires des soignants. Des manifestants pour accueillir le patron de la filiale d'Air France, Hop, ce matin à Morlaix dans le Finistère. 276 emplois sont en jeu pour ce site de maintenance qui doit fermer.
Quand on a appris la nouvelle, on a cru que le sol s'effondrait sous nos pieds. Le drame, c'est vraiment d'être deux dans la même entreprise. C'est déchirant. Nous, on est dépités, c'est une catastrophe.
Le bac version 2020 sera celui des records, taux de réussite de plus de 91% du jamais vu, mais il risque d'y avoir des embouteillages dans les facs.
Les années précédentes, il y avait un certain nombre de places qui se libéraient à la suite du bac. Eh bien là, elles ne vont pas se libérer et donc on va avoir plus d'étudiants qui vont rester en attente d'une place dans l'enseignement supérieur.
Et puis c'est sans doute la comédie de l'été, Tout simplement noir, sortie aujourd'hui avec un thème totalement au cœur de l'actualité. Votre invité après ce journal, Pierre.
Et en ce jour de questions au gouvernement, le patron des députés En Marche, Gilles Legendre. Il est 8h01 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pierre de Villeneuve, Hélène Zélani.
À peine nommés, les nouveaux ministres sur tous les fronts. Hier soir, plusieurs d'entre eux étaient sur le terrain. Éric Dupond-Moretti à la prison de Fresnes, Gérald Darmanin dans le Lot-et-Garonne pour rendre hommage à une jeune femme gendarme tuée par un chauffard, Jean-Baptiste Djebari à Bayonne pour soutenir les chauffeurs de bus après la violente agression d'un des leurs. Aujourd'hui, l'équipe de Jean Castex va devoir affronter les fameuses QAG, les questions au gouvernement, les députés d'abord, puis les sénateurs. Dans l'opposition, Claudia Bertram, on attend les nouveaux ministres de pied ferme.
Oui, les députés comptent bien passer les nouveaux ministres sur le grill, et notamment Barbara Pompili, le LR. Fabien Di Filippo attend l'ancienne parlementaire, désormais ministre de la transition écologique au tournant.
Il n'y aura absolument aucun cadeau de fait dans l'hémicycle. On va rapidement vouloir savoir si elle va mettre en pratique, en tant que ministre comme dans sa commission, une vision assez sectaire de l'écologie.
Pas de cadeau en perspective pour un autre nouveau sur le banc des ministres, Maître Dupond-Moretti. Le député RN Sébastien Chenu envisage de lui demander des comptes.
Il est surtout un ardent défenseur de l'interdiction du Rassemblement national, ce qui nous semble très interrogatif en ce qui concerne les libertés publiques que le nouveau garde des Sceaux souhaite interdire le premier parti d'opposition.
Un premier face-à-face dans l'hémicycle pour voir ce qu'ont les nouveaux entrants dans le ventre. D'autant plus que le discours de politique générale du Premier ministre est reporté à la semaine prochaine. Les Insoumis étaient à deux doigts de sécher la séance, explique Éric Coquerel.
Très franchement, on a un peu hésité à venir. C'est un paradoxe d'interpeller un gouvernement dont en théorie on ne connaît pas la politique générale, qui n'a même pas eu de vote de confiance de l'Assemblée.
Ils seront pourtant bien présents dans l'hémicycle où cette première séance s'annonce donc électrique. Les personnalités de Roselyne Bachelot et Éric Dupond-Moretti promettent des joutes animées.
Claudia Bertram.
Et Jean Castex, invité surprise du Ségur de la Santé hier soir, le nouveau chef du gouvernement a annoncé une rallonge de plus d'un milliard d'euros pour les salaires des soignants, soit une enveloppe globale de 7 milliards et demi.
Oui, mais pour les syndicats, on est encore loin du compte. Patrick Bourdillon, secrétaire général de la CGT Santé, dénonce avant tout un coup de com' du Premier ministre.
Il est arrivé en début de négociation, nous avions un rendez-vous qui était prévu à 18h. À 18h, M. Castex est arrivé avec M. Véran, donc de façon très médiatique, puisqu'il y avait tout un service de presse qui était là, donc il y avait une volonté, y compris d'avoir une communication, puis une communication forte d'emblée, certainement pour marquer des choses, mais ces choses-là, pour l'instant, ne sont pas suffisantes. Donc il y a l'annonce d'une enveloppe supplémentaire, dans laquelle M. Castex répond en tout cas à ce que nous souhaitions, qui sont des embauches. Sauf que la réalité, c'est d'inclure dans cette enveloppe, en même temps, la nécessaire augmentation de salaire pour le personnel, et d'y inclure en même temps les embauches. Donc le « en même temps » de M. Macron est mis à l'œuvre, en l'occurrence, de façon très forte dans ce Ségur, mais il est tellement mis en l'œuvre que l'enveloppe de 7,5 milliards, elle concerne plus grand-chose pour un champ qui est un champ aussi large.
Le représentant de la CGT Santé joint ce matin pour Europe 1 par Nicolas Feldman.
J'ai envie de vous parler de la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs et qui désormais a son ministre, et c'est une première Hélène depuis 20 ans.
Oui, en l'occurrence Annick Girardin, et ce n'est pas juste de l'affichage. Emmanuel Macron confirme ainsi l'importance de sa stratégie maritime, la France étant la deuxième puissance océanique mondiale. Sur la côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais, on attend beaucoup de ce nouveau ministère, Maximilien Carlier.
Dans le port d'Étaples, on entend les drisses, les cordages pour hisser la voile claquer contre les mâts. Quasiment que des bateaux de plaisance, un chantier naval. Et puis la coopérative maritime dirigée par Éric Gosselin, le retour du ministère de la mer, il n'attendait que ça.
C'est quand même une grande richesse d'avoir un littoral. La France se vante d'avoir le deuxième littoral au monde. Et jusqu'alors, on ne s'est jamais doté des ambitions d'une vraie politique autour de la mer.
Car le dernier en poste, c'était Jacques Mélic en 1988. Depuis, plus rien. Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer.
Le monde maritime était orphelin de ce ministère de la mer. Donc il est très important que nous puissions créer les conditions d'une croissance bleue.
Une croissance durable, mais il y a encore d'autres interrogations soulevées par le président du port de Boulogne-Calais, Jean-Marc Puisseau.
Maintenant, je voudrais savoir si la pêche va être rattaché au ministère de la mer. Pour nous, il est important qu'il y ait ce ministère pour le Brexit, pour éviter que le Brexit soit une catastrophe pour le port de Boulogne. Donc, ça suscite beaucoup d'intérêt.
Et on ne sait pas non plus quel budget sera alloué à ce poste transversal interministériel lié au transport, à l'écologie, à la transition énergétique et au tourisme. Étaples, Maximilien Carli, Europe 1.
Il est 8h06.
Et ce chiffre, maintenant, qui nous est parvenu il y a tout juste une demi-heure, le PIB pour 2020, selon les prévisions de l'INSEE, son recul devrait se limité entre guillemets à 9%, c'est mieux que prévu, hein, Carole Ferry.
Eh bien oui, puisque l'INSEE prévoyait un recul de 12% du PIB au mois de juin. Ça veut dire que l'économie redémarre mieux que prévu, la consommation des ménages aussi. Sur l'année, l'INSEE prévoit également un recul de 9%, mieux que les 11% prévus dans le projet de loi de finances rectificatif. Alors il ne faut pas crier victoire pour autant, hein, c'est mieux qu'espéré, mais on est encore loin du niveau d'activité d'avant crise. Dans l'industrie par exemple, l'activité a bien redémarré, mais les carnets de commandes restent peu rempli à l'international. Pour la fin de l'année, en décembre, l'INSEE estime que nous serons toujours entre 1 et 6% en dessous des niveaux d'activité d'avant-crise. La reprise donc est bien là, mais les dernières marches seront les plus difficiles à gravir. Carole Ferry.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. La mobilisation à Morlaix ce matin. Les élus, comme les habitants, vont soutenir les salariés de la filiale d'Air France. Hop, le site devrait fermer. Nous sommes sur place dans un instant. À tout de suite.
Il est 8h09, la suite du journal, Hélène Zélani, Pierre de Villeneuve.
Depuis les annonces d'Air France, rien ne va plus à Morlaix dans le Finistère. Les emplois de 276 salariés du centre de maintenance de la filiale régionale HOP devraient disparaître.
Eh oui, fermeture du site prévue d'ici 2023. Le directeur de l'entreprise aura droit à un comité d'accueil. Tout à l'heure, des élus, des habitants et des salariés ont prévu de manifester pour tenter de sauver les emplois. François Coulon s'est rendu sur place pour Europe 1.
Ils seront en première ligne ce matin, Solène et Yannick, la quarantaine et deux enfants sont l'un des couples HOP de Morlaix, 13 ans d'ancienneté et la peur au ventre.
Quand on a appris la nouvelle, on a cru que le sol s'effondrait sous nos pieds. Le drame, c'est vraiment d'être deux dans la même entreprise. C'est déchirant. Nous, on est dépités, c'est une catastrophe.
C'est le pays de Morlaix qu'on assassine, titre un tract de l'intersyndicale appelant à la mobilisation de tous les Bretons, le nouveau maire socialiste de Morlaix, Jean-Paul Vermeaux.
Ça représente 1000 emplois qui disparaissent par les effets induits. On ne peut pas tolérer qu'on ait comme ça un coup de poignard dans le dos, dans le contrat qui est passé avec l'État et les villes moyennes. Autant nous dire qu'on nous abandonne. Et nous, on est décidés à se battre contre cette décision. La devise de la ville, s'ils te mordent, Morlaix.
Des centaines de Morlaisiens se rassembleront ce matin pour dire non à la condamnation de la quatrième entreprise de la ville, Hermann, vendeur de primeurs.
Tous les commerçants de la ville, on vit grâce à HOP. Pour Morlaix, c'est un drame. Et pour moi, c'est vraiment du gâchis. Là, il faut se battre. Peut-être que les bonnets rouges se transformeront en bonnets bleus. Bleus comme l'aérien.
Un comité d'accueil remonté attend le directeur général de HOP. Morlaix, François Coulon, Europe.
Et on retiendra la devise, s'ils te mordent, Morlaix. À Toulouse, les trois principaux syndicats d'Airbus appellent à manifester devant le siège pour protester contre le plan qui prévoit la suppression de quelques 3500 postes dans la région.
Et peut-être que le champagne a coulé hier soir pour fêter la réussite du bac d'une très large majorité de candidats, hein, plus de 91% de réussite, presque 14 points de plus que l'an dernier. Hélène.
C'est du jamais vu, mais après la joie des bonnes nouvelles, risque d'arriver la déception car il va y avoir embouteillage dans les facs à la rentrée. Virginie Salmen.
C'est le taux de réussite dans les filières générales qui alerte le plus dans les facs. Il est encore plus élevé que le taux global. 94,3% de réussite, c'est presque 15 points de plus que l'an dernier. Et ces candidats au bac S, ES et L, ce sont eux qui vont le plus vers l'université. D'où un risque d'engorgement d'abord de Parcoursup, puis des amphis, selon Gilles Roussel, à la tête de la conférence des présidents d'université.
Le nombre d'étudiants qui vont arriver dans l'enseignement supérieur va être supérieur à nos capacités. capacités d'accueil. Et alors que les années précédentes, il y avait un certain nombre de places qui se libéraient à la suite du bac, eh bien là, elles ne vont pas se libérer. Et donc, on va avoir plus d'étudiants potentiellement qui vont rester en attente d'une place dans l'enseignement supérieur.
Il faudra donc prendre son mal en patience pour les 20% d'élèves qui n'ont pas encore reçu de réponse positive sur Parcoursup.
Et le taux de réussite n'est pas encore définitif, hein, puisque les oraux de rattrapage commencent aujourd'hui.
Tout simplement, Noir, c'est la comédie de l'été qui tombe à pic en pleine mobilisation antiraciste un peu partout dans le monde.
Et vous l'avez vu pour nous, Mathieu Charrier, l'histoire d'un acteur noir raté qui veut organiser une marche contre le racisme, mais ça n'engendre pas la mélancolie.
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits,
pas
ils, sont
interdit,
pas, ils
sont mais pas c'est pas conseillé.
JP est un acteur raté. À 40 ans, sa carrière patine et il décide subitement d'organiser une marche de l'homme noir pour la dignité. Marche réservé aux Noirs. Alors JP va tenter de convaincre d'abord des Noirs célèbres de l'accompagner, Lilian Thuram, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo, Lucien Jean-Baptiste. Puis il élargit ses cibles à Éric Judor, par exemple.
Je suis un putain de nez.
C'est ça.
Tourné à la manière d'un vrai faux documentaire, type c'est arrivé près de chez vous, la caméra suit JP et chaque rencontre est surtout propice à du grand n'importe quoi. JP veut maintenant convaincre Ramzi Bedia et Jonathan Cohen de le rejoindre.
On a des imams qui soutiennent.
Non, fais pas ça.
Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe.
Évidemment, derrière cette comédie aussi édifiante qui la rentre. Le film, ancré dans l'actualité, dénonce les violences policières ou la place réservée aux acteurs noirs en France.
Le point de vue était marrant d'avoir un mec qui lutte contre l'exclusion et pour sa marche, il exclut les gens. Et c'était un bon point de départ de comédie pour mon film. Ouais.
Qu'on arrête de parler de communauté noire aussi. Quand on voit les petits mouchoirs au camping, on dit pas que c'est un film sur la communauté blanche.
Quant à l'affiche du film, Jean-Pascal Zadi n'a pas hésité à revêtir les habits de président de la République pour poser type photo officielle à côté des drapeaux français et européens.
Et le réalisateur de Tout Simplement Noir, Jean-Pascal Zadi, sera l'invité de Pascal Clark tout à l'heure dans Culture Média.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zeleny qui revient tout à l'heure à 9h.